Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, en direct, on décrypte pour vous ces tendances, ces modes, ces loisirs nouveaux qui nous font du bien et qui méritent tout simplement d'être testés. Alors justement, en matière de tests, à midi, on met d'abord en éveil nos papilles avec la chronique gastronomie. Aujourd'hui, c'est Sophie Menu qui en a les rênes. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes.
On va se faire du bien avec un plat réconfortant. Une petite gamelle d'ailleurs vient arriver devant moi là, ça a l'air délicieux.
De quoi va-t-on parler ? On va parler de la choucroute, l'emblème de la gastronomie alsacienne.
Ah, mais quelle bonne idée. Ah, vous avez bien fait de venir. Ensuite, ce sera à Soizic Belin de nous captiver. Bonjour Soizic.
Bonjour.
Alors, on va partir en visite avec vous, mais des visites qui sortent de l'ordinaire.
Voilà, des visites un peu spéciales avec des thématiques différentes, vous allez voir. Il y en a pour tout le monde.
Super. Et enfin, on terminera la partie tendance du jour avec vous, Sophie Braffman. Bonjour.
Bonjour.
Là, Sophie, vous nous présentez ce midi des fringues qui vont mettre tout le monde d'accord, non ? Filles ou garçons
Oui, la tendance unisex. Alors, on est un peu perdu, je sais pas vous, unisex. Non genré, binaire, non binaire, on ne sait plus très bien. Donc je vais faire un petit rappel historique aussi.
Très bien, merci beaucoup Sophie. Ce sera à vous de jouer dans quelques minutes, mais tout de suite, on passe à table dans Bien fait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Il est midi et 3 minutes, et donc l'heure de passer en cuisine. Enfin, en tout cas, d'écouter les conseils culinaires de Sophie Menu ce lundi. Sophie, on part donc en Alsace, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, on part en Alsace et je vois que Julia a déjà commencé à croquer un
knack. Elle est à fond sur la choucroute, j'ai déjà fini la première saucisse.
Alors, si je vous dis choucroute, vous pensez effectivement Alsace. Mais en fait, l'histoire raconte que c'est en Chine.
Mais non,
qu'elle serait née. Ouais. Cheveux d'ange, d'un blanc nacré, croquante et acidulée. Lorsqu'elle est nouvelle, c'est meilleur. Mais on raconte surtout que la choucroute est apparue en fait pendant la longue construction de la muraille de Chine. Les ouvriers rentraient chez eux pendant les hivers rigoureux et laissaient en fait dans des jarres le chou, était leur alimentation de base. Et ce chou fermenté, et ils le conservaient comme ça à leur retour. Ensuite, les grandes invasions, Attila et les Huns le rapportent en Europe en passant par la Bavière, l'Autriche, l'Allemagne, hein, où c'est aussi un élément phare de la gastronomie.
Et donc l'Alsace.
Et donc l'Alsace, voilà, ça. Où la lactofermentation était déjà utilisée pour certains légumes comme le navet.
D'accord, on sait d'où ça vient le mot choucroute ?
Tout à fait, ça vient de l'alsacien. Alors je vais essayer de le dire avec le bon accent. Chour, croûte, alors chour c'est aigre et croûte c'est herbe.
Ah d'accord. Okay.
Mais comment on a commencé à en faire alors ?
Alors à l'époque, les paysans en Alsace râpaient le chou et le mettaient à saler en même temps que la viande dans des grandes jarres. Il y avait même des gens qui passaient dans les villages pour permettre cette conservation. Alors on mettait des herbes, des aromates, du genièvre, du cumin. Et il y avait même un gars qui avait un coupe-chou et qui passait de village en village pour couper ce fameux chou. Parce qu'il faut savoir, moi j'ai eu la chance de visiter des choucrouteries. Mm-hmm. Les choux sont, c'est pas des bébés, c'est des triplés. C'est énorme.
On n'a jamais vu ça, je pense.
C'est énorme. Et il y a d'ailleurs dans les usines en fait, de conservation de choucroute, c'est carrément des piscines où on met le chou qu'on tasse comme ça, on met du sel, ça sent extrêmement fort, parce que la fermentation passe. Mais c'est d'ailleurs très intéressant.
Ça doit être quelque chose à visiter, ça doit être sympa, ça aussi. Soizic, la prochaine fois, dans les loisirs, il faut aller visiter une choucroute.
Un pince-nez, Soizic, parce que ça sent très très fort.
Et moi, je suis restée bloquée sur l'origine de la choucroute, en fait.
C'est fou, hein, c'est incroyable. Ouais, on se doutait pas de ça, mais cette fermentation, est-ce que c'est bon pour la santé, ça ?
C'est très bon pour la santé. Alors, vous connaissez sans doute le marin anglais James Cook, qui l'embarqua sur ses navires au XVIIIe siècle, parce qu'il s'aperçut que le scorbut qui décimait ces marins, en fait, aidait la choucroute avec la fermentation, aidait les marins à lutter en fait contre ce scorbut. Et on s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de légumes fermentés sont très bons pour la santé. Oui. En fait, ça fait partie d'un élément vivant, la choucroute, comme tous les éléments fermentés. Donc elle regorge de bienfaits, de vitamines, de probiotiques
pour notre flore intestinale.
Exactement,
c'est ça,
Mélanie, tout à fait.
Mais alors pourquoi seulement en Alsace ?
Parce qu'en fait, le chou s'épanouit en Alsace, parce que le climat...
comme elle parle du chou, on dirait qu'elle parle d'un ami. Le chou, c'est pas nous.
Mon chouchou. Alors, d'ailleurs, il pousse dans la plus grande région productrice en France, s'appelle Krautergersheim.
Ah, bah oui, c'est à 20 km au sud de Strasbourg, je connais bien.
Sérieusement ?
Non, c'est marqué sur mes notes.
Et en fait, on fabrique la choucroute là-bas depuis le 16e siècle. Elle fait carrément vivre hein, toute la région. Incroyable. Et quand vous passez sur l'autoroute, vous sentez l'odeur du chou qui fermente dans toutes les ateliers.
Mais je crois qu'il y a aussi des recettes différentes. Il y en a même au poisson. J'en ai goûté de très bonnes, des choucroutes de la mer.
Exactement. Bravo. Alors, Julia, dit-elle, après avoir croqué trois saucisses.
C'est ça. Mais vous avez l'air assez viandarde. Hein, quand même.
Oui, j'aime bien aussi le poisson.
Et c'est beaucoup plus digeste et beaucoup plus léger. Parce que ce qui est embêtant dans la choucroute, enfin, c'est pas embêtant d'ailleurs, c'est la charcuterie. Mais il faut qu'elle soit bien faite. Mais effectivement, on peut la trouver, puisqu'il y a très très longtemps aussi, les bateliers, les pêcheurs, quand ils ramenaient dans leur filet tous les poissons des rivières, ils l'utilisaient justement pour préparer cette choucroute.
Alors justement, la question qui vient...
On veut la recette, parce qu'on a déjà tous commencé à goûter, enfin presque, non, oui, Julia alors, et moi, simplement.
Je voulais quand même vous dire, oui, d'ailleurs, il y a que vous qui mangez, hein, mais...
Avec Soisy qu'on est au régime.
Sophie et Soisy, il faut goûter, parce que alors, cette choucroute vient de la fabrique Stoffer. Alors Stoffer, ça se trouve en grande surface, mais c'est très artisanal encore. C'est une maison alsacienne qui fabrique cette choucroute, et elle contient beaucoup moins de sel.
Ah bah oui.
Elle est très légère, d'ailleurs, vous constatez
c'est
que...
C'est très bon, hein, franchement, oui, c'est pas très salé.
Mais si on veut en faire une à la maison, comment on fait, Sophie ?
Alors Julia, mettez votre tablier.
Ça y est, c'est fait.
Alors, vous faites fondre un oignon dans un peu de graisse d'oie.
D'accord.
Vous allez rajouter votre choucroute. Alors, vous achetez une choucroute de bonne qualité, puisque choucroute, c'est en fait le chou et c'est le plat.
Ouais.
On est d'accord.
Hein, les deux.
Ouais. Ça veut dire les deux. Vous ajoutez du vin blanc, du bouillon, vous laissez cuire 30 minutes. À côté de ça, si on l'a fait au poisson, vous faites poêler vos poissons, vous faites un beurre blanc. Mm-hmm. En fait, c'est ultra simple, Mélanie, vous qui aimez cuisiner.
J'ai jamais fait la choucroute, mais bah c'est voilà. Vrai que mon boucher me vend tout un peu comme ça et je me régale, hein, mais j'ai jamais fait moi-même. Mais alors, c'est passé long en cuisson, je ne me rends pas compte.
Non, c'est 20-30 minutes de réchauffage et puis la charcuterie, vous l'achetez déjà préparée, en fait, c'est vite fait. Ou alors, vous faites comme j'ai fait, vous l'achetez déjà préparée.
Dans une bonne choucroute, en tout cas de viande, il y a plusieurs types de saucisses, il y a combien, trois types de viande différentes.
Il y a des pommes de terre, histoire de rajouter un peu, parce que
c'est léger,
l'hiver, il fait froid.
Mais le chou, c'est léger, en fait. Hein,
le chou, c'est très léger, et comme on le disait, c'est très digeste, et c'est très bon pour la santé. Donc, effectivement, des knacks, de l'échine, des petites saucisses... genre meurteau, montbéliard, voilà. Et puis, c'est déjà pas mal.
C'est bon. Si on reste sur les poissons et leur garniture, on peut prendre quoi? Des filets de cendre?
Filets de cendre, filets de poisson de rivière, en fait, puisque en fait, en Alsace, hein, passe le Rhin et l'Ille, donc cendre, omble chevalier, et puis vous pouvez ajouter du saumon, et même du saumon fumé, si vous voulez faire une choucroute un peu élégante, les fêtes arrivent bientôt, voilà, ça évidemment, le saumon fumé, vous ne le faites pas cuire, vous le mettez au dernier moment sur la choucroute, et c'est vraiment un plat complet.
Et accompagné d'un bon petit verre de vin, avec modération, bien sûr.
Un bon Riesling.
Exactement, j'ai bien un bon Riesling d'Alsace.
Et c'est le paradis, mais merci beaucoup, Sophie, pour toutes ces explications, ces conseils. Je pense que ça va choucrouter chez ces verres, c'est dur à dire, chez les uns et les autres, grâce à vous. D'autant que je crois que cette semaine, le froid va vraiment débarquer. Donc la choucroute, c'est parfait pour se faire plaisir et se réchauffer.
Hyper réconfortant, ouais.
Exactement. Bon, ça va encore chauffer dans ce studio dans quelques minutes. D'autres tendances arrivent, et notamment des visites en ville originales qui nous seront présentées par Soisig Belin. Et puis avec Sophie Braffman, on va découvrir une tendance mode qui se développe de plus en plus, les vêtements gender fluides pour hommes et pour femmes. Tout le monde peut les porter. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Alors la choucroute de Sophie Menu juste avant, c'était somptueux.
Franchement, c'est régalé. Hein.
Ah ouais, mais on sent pas
ça sent la choucroute dans le studio.
On se sent pas légère là tout de suite. Alors on va partir en balade avec vous, Soisig Belin.
Très,
vous écoute.
Très bonne idée. Alors il me semble qu'on est nombreux à pratiquer le tourisme urbain. Alors c'est assez simple. Hein. Et puis la tendance s'est accentuée avec les confinements. Le staycation, soit l'idée de séjourner dans sa propre ville, de booker un hôtel à 10 minutes de chez soi, ça cartonne en ce moment. Dans la même logique, visiter ou revisiter votre ville, finalement, n'aura rien d'absurde. Alors, quand on a la chance de vivre dans un des spots touristiques mondiaux, C'est quand même assez intéressant.
C'est clair. Quand je pense que j'ai jamais amené ma fille à la Tour Eiffel, c'est déjà. Mais oui, c'est quand même honteux. Oh. Alors, vous êtes finalement une touriste dans votre propre ville, hein, Soizic ?
Oui, parce que justement, vous parliez de Tour Eiffel, mais moi, la Tour Eiffel, je l'ai faite l'année dernière, il me semble, pour la première fois. Ouais. Voilà. Donc, c'est autant vous dire, on ne visite jamais véritablement sa ville.
Dommage.
D'ailleurs, autour de cette table, qui connaît Paris sur le bout des doigts ?
Non, personne. Peut-être évidemment. Pas sur le bout des doigts, mais moi, je fais des trucs sympathiques.
Ah oui ?
Ouais, genre les bateaux mouches. J'aime bien. Hyper sympa, les bateaux mouches. C'est super. Ouais.
Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient connaître davantage le lieu où ils vivent finalement, il y a des visites thématiques et c'est un très bon compromis au circuit classique. Alors je me suis particulièrement intéressée aux initiatives parisiennes parce que c'est ma ville d'adoption. Cependant sachez que ces tours d'un genre particulier ne sont pas réservées qu'aux habitants de la capitale. Ce week-end j'ai testé une balade parisienne insolite avec l'organisme Zigzag Paris et je me suis évadée dans un Paris coquin. Rendez-vous donc dans le quartier de la Nouvelle-Athènes, le 9e arrondissement, réputé pour son côté sulfureux, son célèbre moulin rouge et ses multiples sex-shops. Alors nous sommes une dizaine à se retrouver à la sortie du métro Saint-Georges, une petite place, théâtre des hauts lieux du libertinage du 18e siècle. Le guide nous met rapidement dans le bain. À cette fenêtre, une célèbre courtisane pouvait à loisir observer ses bienfaiteurs en marche pour la rejoindre. Les bâtiments devant lesquels nous avons l'habitude de passer, hein, sans se poser de véritables questions, finalement on commence à aller connaître un petit peu mieux. Au-dessus de cette porte, la lanterne rouge rappelle qu'à l'époque c'était une maison de plaisir. Mais si on voyage dans le temps, un visiteur ne manquera pas de demander le plus naïvement possible hein, comment faire la distinction entre des véritables salons de massage et ceux réputés pour leur finition. Je vous disais, on était dans le 9e arrondissement de Paris. Alors Florence était de la partie et voici son ressenti après la visite.
En fait, moi je me sens tout de suite prise par le truc. Je me représente, j'ai les images sous les yeux et c'est vraiment comme si j'y étais. Alors, même si on peut être un peu dérangé dans la rue, on se met complètement dedans. Et en plus, en allant d'un endroit à un autre, le fait de circuler comme ça dans Paris, avec toutes ces lumières, avec tout ce monde qui grouille, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un côté jouissif là-dedans. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a une émotion que j'aurais pas de la même manière devant mon écran. Voilà.
Alors si le côté hot, ce n'est pas vraiment votre truc, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts.
Alors justement, c'est quoi les thématiques que vous nous conseillez, Soizic ?
Alors, il y a, ça fonctionne par thématique, donc il y a le Paris du crime.
Ah, ça va vous plaire ça, Julien.
Ah, c'est génial,
ça,
voilà,
c'est
même pour les ados et tout.
C'est frissonnant, le Paris de la franc-maçonnerie, un peu plus secret, un peu plus mystérieux. Le Paris et les métros, coucou Laurent Deutsch. Mais sachez qu'il est aussi possible de donner la voix aux femmes et avec Féministes in the City, c'est chose faite. Mais qui sont ces personnes qui vous font découvrir votre ville autrement? Alors j'ai donné la parole à Lucie Collin qui est guide pour Féministes in the City, une start-up créée par Cécile Farah et Julie Maranguet.
Ça fait 3 ans maintenant que j'ai rejoint l'aventure Féministes in the Cities et j'ai pas de formation à la base pour être guide, donc ce qui m'a plu c'est déjà le fait d'être formée à quelque chose que je connaissais pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement ces échanges et ces débats qu'on peut avoir, puisque nous, on n'a pas vocation à expliquer ce qui est bien ou mal. C'est vraiment créer de l'échange et du débat avec les participants, donc c'est toujours hyper enrichissant.
Sophie Menu, Sophie Braffman, vous êtes tentée par lequel de toutes ces visites originales là ?
Moi, j'aime bien le Paris du crime. J'adore les séries avec les faits divers.
Moi aussi, c'est ma passion. Sophie.
Moi, les francs-maçons, peut-être, puisqu'on ne les connaît pas, finalement.
Ouais, intéressant.
Oui, effectivement. Alors, avec ces visites thématiques, c'est un peu comme si on mettait en avant la petite histoire, celle qui ne figurait pas forcément dans les manuels d'histoire. En se baladant ainsi en extérieur, dans les pas de tout un chacun, et plus forcément en suivant les traces des hommes et des femmes connus et reconnus, on fait revivre l'histoire. Justement, Hugo a créé Dans les pas 2.
Dans les pas, ça fait 2 ans et demi que ça existe. J'ai 5 visites en circuit et 2 en préparation avec des sujets comme Victor Hugo, les femmes de la Révolution, les Templiers. L'objectif, l'ambition de ces visites, c'est que la balade et la narration soient aussi précises que l'information et aussi mémorables que les vannes. Voilà, c'est ça une balade dans les pas.
Bon, Soizic, est-ce que vous avez quelques noms, adresses à nous donner ? Alors oui, prenez note. Et puis, comme nous le disait ici il y a peu le professeur Lejoyeux, invité dans ce studio, la marche l'hiver dans le froid, ça booste notre morale en berne. Donc, encore une autre raison de chausser ses souliers les plus confortables pour remonter le temps. À Lyon, vous avez Cybelle qui propose aussi une découverte insolite de la ville. À Bordeaux, vous avez La Belle Endormie. Et sachez que Féministes in the City existe aussi à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à Marseille.
Bah, c'est parfait, il y en a pour de nombreuses personnes, voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Soizic.
fantastique pour la visite. En tout cas, ça donne de nouvelles idées de sorties sympas qui changent un peu de l'ordinaire. On a besoin de ça en ce moment. Merci. Alors, dans la chronique de Sophie Braffman qui arrive, je crois que là aussi, on va sortir des sentiers battus, clairement. Sophie, on fait un focus aujourd'hui sur une mode d'un nouveau genre dans laquelle, justement, il n'y a plus de genre du tout, c'est ça ?
Exactement. Alors, je vais essayer de rendre ça un peu plus clair. Déjà, pour nous, femmes des années 80, enfin 90, la tendance unisexe se limitait à une chemise blanche, hein, par exemple, pour une présentation PowerPoint, voilà, réunion du lundi, on veut qu'on nous prenne au sérieux, eh bien, on emprunte au vestiaire masculin. On ajoute en général un petit blazer. C'est intéressant d'ailleurs de voir pourquoi on emprunte au vestiaire masculin quand on veut être prise au sérieux. Alors, il y a plusieurs façons de décliner cet unisexe. On le décline aussi, par exemple, pour une promenade bucolique dans la forêt, un gros caban enfilé sur un cachemire d'homme assorti d'un jodhpur, le fameux pantalon d'équitation, rehaussé de bottes cavalières. Alors là, c'est unisexe, mais pour une bourgeoise un peu tradie. Hein. On est plutôt dans la forêt de Rambouillet, Chantilly, voire à Versailles. Alors, on a une déclinaison plus plouque de l'unisexe, moi, que j'aime beaucoup.
Oui, nous, on aime bien les plouques.
Ça va vous plaire, celle-là. Alors, charentaise, cardigan oversize, des caleçons d'homme ou leggings pour squatter son canapé le dimanche soir devant Capital ou une série Netflix pour Julia, qui les aime beaucoup. Et bonne nouvelle, en 2021, le vestiaire unisexe, il est bien plus vaste qu'il n'y paraît. En mode comme ailleurs, on n'invente rien, on réinterprète.
Mais c'est quoi la définition de l'unisexe en mode, justement ? Parce qu'on parle aujourd'hui de collection unisexe, non-genrée, gender fluide. On est un peu perdu, c'est vrai.
Oui, je sens que vous êtes comme moi, vous êtes un peu perdu. Ouh là 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 là, on est complètement perdu. Alors, on va vite remettre les pendules en marche. Alors, les vêtements unisexe, ce sont des vêtements faits pour hommes et pour femmes. Par exemple, une chemise Oxford, un jean Levi's, une doudoune Uniqlo, une paire de Converse. Des bons basiques qui, en gros, sont devenus des standards de la mode et qui vont parfaitement dans les deux vestiaires. Alors que le style gender fluide ou non-genré, ça consiste à naviguer librement d'un vestiaire féminin à un vestiaire masculin, mais on va garder les attributs de chaque vestiaire. Féminité et masculinité.
J'avais pas compris tout
ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus créatif. Alors on le voit bien avec cette jeune génération, la génération Z sur Instagram, qui n'hésite pas à se jouer des codes traditionnels. On voit des garçons avec des colliers de perles ou des sacs à main, des filles en hoodie capuche et des chinos coupés pour mecs. Fini le cliché du rose pour les filles ou du bleu pour les garçons.
Bon, je vais laisser ma petite robe à paillettes à mon mari, je crois, cette année. C'est quand même plus facile pour les filles de piocher dans le vestiaire masculin que pour les hommes, non ? On est d'accord ?
Alors, je suis d'accord avec vous,
Mélanie. Je vois pas ce que mon mari pourrait me piquer, franchement. Cette chemise à fleurs, là.
Vous allez voir, vous allez être surprise. Oui. Parce que la mode est toujours très créative. Et dans la série des pièces phares, je vais vous faire une petite liste avec celles qui sont portées indistinctement par monsieur ou madame en 2021. Alors, on retrouve le caba, ce grand sac à main fourre-tout qu'on croyait à tout jamais réservé aux femmes. Aujourd'hui, les hommes ont des sacs à main, et notamment celui-ci. On espère qu'ils sont un peu moins bordéliques que nous, parce que je ne sais pas vous, mais moi, le caba, évidemment, il y a plein de choses à l'intérieur.
Plus c'est grand, plus il y a de bordel.
Et oui, généralement, c'est un peu le cas. Côté chaussures, on a les Chelsea Boots. Alors, vous savez, c'est ces bottines avec des élastiques sur les côtés.
Ah bah oui.
Vous voyez lesquelles avec plutôt rond, il y a une sursemelle.
Ah oui, je vois. Chelsea Boots.
Je ferai un petit post Insta sur Bienfait pour vous tout à l'heure pour vous les montrer. Alors, celles-là sont indistinctement portées par les hommes et les femmes. On a les mocassins sans chaussettes, Julia, les mocassins, ça c'est très important.
J'en ai acheté à paillettes, ça se fait pas.
Ouais, je suis à paillettes, mais pas de chaussettes par contre pour les mocassins.
Non, c'est les chaussettes.
C'est les chaussettes. Alors, pour vous, je vous conseille des mocassins sous forme de slippers pour les femmes, Gucci, Hermès, enfin, ou toute autre marque pas chère. Ou alors pour monsieur, on a le mocassin Todd, un grand classique qu'on peut porter avec un chino rose. Là, c'est un petit côté Jean-Charles qui passe son été à l'île de Ré, avec le polo Ralph Lauren et le pull en V nonchalamment posé sur les épaules. L'aristo aime toujours la couleur. Ensuite, on a la chemise volantée, vous allez voir. Alors Mélanie, vous parliez de chemise. Là, c'est pas discret, c'est encore moins discret par exemple qu'une lavalière. Aujourd'hui, les hommes la portent, alors notamment les néo-dandies ou les gothiques pour la version moche. Sinon, on a le manteau façon léopard d'Amanda, qui ira toujours au bois. Auquel on ajoute le collier de perles d'Anne-Charlotte, Anne-Chacha pour les intimes. Alors ce collier de perles, il a vraiment quitté Versailles et c'est même devenu aujourd'hui l'emblème du cool.
Ok, on a bien noté toutes ces petites pièces.
C'est génial. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, les grandes marques réfléchissent toutes à la question du genre ou du non-genré quand elles établissent leur collection, Sophie ?
Alors, de nombreuses marques y réfléchissent, c'est totalement le cas, car si le sexe est biologique, le genre est culturel. J'aurais aimé que ce soit de moi,
non,
mais ce n'est pas le cas.
Non,
c'est un peu trop intelligent. C'est de Jeffrey Jenny, le prix Pulitzer en 2002 pour son livre Middle Sex. Le genre est donc une idée soumise à l'interprétation et il suffit de revoir et de réinterpréter l'histoire de la mode pour s'en apercevoir. On a tout à l'heure appris que la choucroute venait d'Asie, c'était quand même insensé.
On en apprend des choses dans cette émission.
Vous allez voir,
même,
par exemple, si on voit Louis XIV, il portait des chaussures à talons rouges qui sont
c'est
très
vrai.
Réputées puisqu'on les voit.
Gender fluid, déjà.
Ah bah, totalement gender fluide. Hein. C'est un dingue, Louis XIV, très très gender fluide, très en avance sur son temps. On peut parler aussi des chemises à volant ou des chemises fleuries, notamment sous la Régence, que portaient les hommes. Donc là aussi, c'est très inventif. À la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, je parle des nobles. Hein, le tiers état ne s'habillait pas beaucoup. Au XXe siècle, on a le style garçon des années 20. On voit avec la cravate et le tailleur. Donc là, bien sûr, va complètement piocher dans le style masculin. Arrive ensuite Gabrielle Chanel avec son blazer doré qui est emprunté au vestiaire militaire, ou alors encore la petite veste chanelisante qui, elle, est issue de la veste de Bounia. Le couturier Ted Lapidus, plus tard, dans les années 60, qui est pionnier du vestiaire unisexe dans son époque. Et si on veut avoir un couturier beaucoup plus récent, on pense bien évidemment à Gautier avec sa jupe et sa marinière pour hommes. Bref, les exemples fleurissent. Aujourd'hui, les designers de renom jouent avec les codes. Un Nicolas Ghesquière chez Vuitton, une Vivienne Westwood avec l'esthétique anglaise et son originalité. Et même dans les grandes enseignes accessibles, Zara, H&M et Asos proposent des collections unisexes. Le design non-genré est désormais de tous les défilés et ça sera même bientôt le cas en lingerie. Donc là, je vous en parlerai lors d'une autre chronique.
Oui, parce que j'ai envie de porter les culottes de monsieur, c'est ça ?
Alors, le caleçon pour monsieur, c'est déjà fait pour madame, mais moi, j'ai hâte de voir la culotte pour monsieur, bien dans sa peau, bien dans sa culotte, et bien, ce sera bien fait pour vous.
Eh bien, vous nous avez promis cette chronique, nous allons la voir d'ici peu.
On
merci beaucoup, Sophie. Moi, j'adhère franchement à cette mode gender fluide. Ouais. C'est bien, la société évolue, la mode aussi, c'est très bien comme ça. Merci à toutes les trois pour ces chroniques très instructives et donc bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui.